que ça n'a pas été tellement des violences physiques. Il y a eu un peu de violence physique à la fin, mais bon, là, j'avais dit stop tout de suite. C'était des violences plutôt psychiques et psychologiques. Donc, effectivement, elle devait être là depuis avant la rencontre, mais j'ai pas vu et surtout, j'ai sans doute pas voulu voir. Quand on veut pas voir, on voit pas. Ça commence par le dénigrement, le rejet de l'autre. Et quand je dis de l'autre, des gens qui pouvaient venir à notre contact. Donc ça commence par tout mon entourage, donc les copains, la famille. Puis ensuite, c'était sa famille. Et au bout de quelques mois, quelques années, bah on voit le nombre de gens que l'on pouvait côtoyer qui diminue. Puis un jour, on se retrouve, bah on ne voit plus personne. L'autre est méchant et mauvais, il faut s'en méfier, donc on s'écale, on s'écarte. Inviter quelqu'un, c'était des copains, des copines, c'était quasiment impossible. Le regard de l'autre, insupportable pour elle. Moi j'étais en prison en fait.
Bonjour.
Aurélie.
Aurélien.
Oui. C'est bon?
Oui, à part que ce
sera
pas cuit.
Ce sera pas cuit?
Ben non, j'aurais dû commencer par les oignons.
C'est pas grave, on peut manger des oignons un peu crus, tu sais, c'est bon. Hein.
Il y avait des gens qui déclaraient des poèmes sur le marché.
Ouais?
Ouais, c'est le festival de la parole politique autour de Quimperlé, quoi. C'est la mère de Dom qui fait ça, qui est le responsable de cette association.
Ah oui, d'accord. Mmh. Ouais.
Et c'était pas mal, il y avait des poèmes sur l'agriculture intensive.
Ils ont fait des poèmes sur l'agriculture intensive.
Bah, pour dénoncer, si tu veux.
Oui, non, mais je trouve ça.
Et c'était bien, franchement. Bon, après, ils mettaient ça un peu en scène, c'était pas vraiment du théâtre, si tu veux, mais il y avait. Faut le faire, parler devant tout le monde comme ça, ouais. Avec un personnage.
Ouais.
C'était pas mal.
Il me l'a dit assez vite qu'il avait vécu des choses difficiles avec son ex-compagne. Petit à petit, j'ai compris que vraiment il y avait un vrai traumatisme par rapport à ça, qu'il avait même du mal à en parler, que c'était un sujet pas tabou, mais voilà, enfin je le laissais parler, mais moi j'allais pas trop dans ce terrain-là, parce que je voyais que quand j'essayais de comprendre les choses. Il pouvait se replier un peu sur lui-même.
À partir du moment où j'ai commencé à remettre en cause son mode de fonctionnement, les violences physiques et vraiment verbales se sont retournées contre moi. Beaucoup d'interdits et la moindre contrariété, à un moment donné, ça pouvait déraper. Mais pour des choses incroyables, incompréhensibles. On s'est retrouvé un jour avec une panne de machine à laver. Alors, banal. Hein. Donc financièrement, on était un peu juste. Bon, on patiente, on avait une autre machine à laver à disposition. Donc pendant 6 mois quand même, je me suis continué tout le lavage du linge, comme ça. Bon. Et un jour, j'avais une rentrée d'argent. Donc j'avais téléphoné pour prendre rendez-vous. Quand j'ai dit ça, elle est rentrée dans une colère monumentale. C'est une des pires que j'ai vues. Mais elle s'arrachait, elle se tapait sur la tête, arrachait les cheveux, claquait les portes des fenêtres, tout fermier, hurlait dans la maison. Hurlait. J'ai même pas le temps de dire quelle date c'était. Elle est revenue, furieuse. Quand est-ce qu'ils viennent? Je dis, t'inquiète pas. Il proposait de venir hier, j'ai refusé. Donc ils viennent dans 8 jours. Ouais, elle était furieuse. Je vais téléphoner, je vais annuler, pas possible, peut-être. Mais il a fallu qu'elle nettoie toute la pièce. Ma fille, elle a la chambre à l'étage. Une fois, elle avait fait venir une de ses copines à la maison. Elle est partie de la porte d'entrée. Partout où la fille pouvait poser ses yeux dans la maison, il fallait qu'elle refasse la peinture, qu'elle passe le balai, qu'elle passe la serpillière. Donc, partout, elle avait anticipé que si elle avait besoin d'aller aux toilettes, parce qu'on a 2 toilettes, en haut et en bas, et ben c'était en haut, c'était pas en bas. Donc, elle avait nettoyé de fond en comble. Et la chambre avait été repeinte pour ça.
Et comment Laurent et Marie sont allés au meeting de Mélenchon à Brest?
Et alors, ils ont trouvé ça comment?
Bien, ils ont trouvé bien. Ils ont dit qu'il y avait beaucoup de jeunes.
Pas trop spectaculaire, quand même, dans le côté un peu comme... Ouais.
Il m'a pas parlé de ça du tout. Il m'a surtout parlé des idées, en fait. Il disait qu'il avait, il avait trouvé ça vachement instructif. Et tu sais, la marche dont je te parlais, là, pour la 6ème République, c'est à Paris. Je crois que c'était à Lorient. Ou... Enfin, c'est à Paris. Ils vont y aller, hein.
Ah, ils vont y aller.
Putain, ils sont motivés. C'est un dimanche. Mais ils sont très bien, tes oignons.
J'ai compris que cette personne-là était narcissique ou pervers narcissique. Donc moi je connaissais pas du tout ça. Je savais pas de quoi il s'agissait. Et de là, à partir du moment où il y a eu un mot dessus, j'ai mieux compris le fonctionnement et ce qu'elle avait pu faire subir à ses proches, enfin surtout à Pierrick. Moi je comprenais même pas qu'on puisse être aussi méchant. C'était les méchants des dessins animés qui n'existent pas en vrai, quoi. C'était ça dans ma tête, là, ils existent en vrai. Et j'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire ça. Jamais, vraiment. Ouais.
Et moi, je l'ai même vu une fois aller se battre physiquement avec mon père. Voir une femme aller se battre avec un homme, c'est pas courant, quand même. Donc je me suis interposé. Elle s'était penchée un peu comme font les karatékas, c'était dans la cabine d'un tracteur. Donc elle a voulu décrocher un coup de pied à mon père. Et j'étais entre les deux, c'est moi qui ai pris le coup de pied. N'empêche qu'il y a eu le coup de pied et puis qu'elle allait se battre physiquement. C'est comme pour les insultes. Comme une fois, elle a traité de mon fils de connard. T'es qu'un connard, tu me fais chier, d'ailleurs, tu fais chier tout le monde. Il avait 10 ans, 12 ans. Voilà. Elle aura appris à rejeter les autres. Elle était en train de faire des mini-mois. Avec les enfants, de ce qu'elle était, elle. Bon, j'ai ma fille qui n'est pas là, j'ai pas de nouvelles d'elle depuis 6 ans. J'ai un de mes fils qui est dans le sud-est de la France, donc je le vois pas souvent, deux fois par an à peu près, et très rapidement. Et le petit dernier qu'ils avaient, nous, enfin qui a 20 ans maintenant, quand même, on a commencé à tout petit peu parler de ça, et il me disait, je crois qu'on a tous pris un peu quelque chose de maman, dans le comportement, qu'il me disait. J'ai pas voulu approfondir, mais c'était pour eux, c'était la norme. C'était, j'espère qu'ils sont pas dans cet esprit-là de rejet de l'autre, en fait.
Ça reste rare, moi, dans ma carrière. Ça fait 15 ans maintenant que je suis en brigade territoriale. J'ai eu à traiter deux cas comme ça. Seulement, de violences qui sont faites envers les hommes au sein du couple. Les enfants, dans ces histoires, c'est toujours le drame, en fait, parce qu'ils sont entre les deux, c'est souvent témoins, quand ils ne sont pas victimes aussi de violences dans le couple. Après, le fait de voir le père qui n'a pas cette autorité parentale, son rôle de père, ils regardent ça avec leur regard d'enfant, donc ils n'ont pas encore ces notions de dire bah, « mon père étant l'homme, c'est lui qui devrait avoir une autorité ». Donc ils subissent malheureusement, ils sont témoins de ce qui se passe. Et c'est une prise en charge à faire aussi des enfants, parce qu'on peut voir que dans leur futur, ça influe sur leur vie après d'adultes. Donc on voit régulièrement nous, des jeunes adultes, qui pour certains ont tendance à reproduire le schéma, et pour d'autres qui, au contraire, veulent surtout pas reproduire ce qu'ils ont connu chez eux. Donc pour ceux-là, on peut se dire que c'est déjà gagné, quoi.
Je servais de bouclier, surtout de punching ball, donc à me taper dessus, en fait. Et je ne me rendais pas compte, j'encaissais les chocs. Parce que physiquement, j'étais largement capable de faire face. Mais quelque part, je craignais sa réaction. Naturellement, je n'aime pas les conflits. Dans mon quotidien, je travaillais à la ferme et j'y passais beaucoup de temps. C'était une façon pour moi de m'échapper, pour exister. C'était mon tuba, en fait, hein, pour vivre. Mais peut-être que si je n'avais pas eu ce boulot-là, qui était quelque part qui me valorisait bien, je ne sais pas comment j'aurais pu réagir. Peut-être que j'aurais pu être démoli plus rapidement, ou j'aurais peut-être pu m'effondrer plus vite. Ouais, je sais pas.
Bah, je vais juste vérifier les cornets de qui parlent.
C'est bien, une belle averse. Bon, un temps comme ça, ça me donne envie d'aller au milieu, sur l'air paillé avec les vaches, puis m'allonger et dormir.
C'est ce qu'elles font, madame.
Ah ouais, c'est ce qu'elles font. Et quand t'entends la pluie comme ça, oui. Allez, hop.
Tu l'as déjà fait?
Non, bah non. Si, ça m'était arrivé quand il y avait des vélages, que je venais surveiller.
Ah oui, oui, oui.
Je dirais, ça a pu tarder, ça a pu tarder. Allez, je vais dans un coin, dans le foin, dans la paille, puis j'attendais.
Ah, je me souviens une fois dans le local de village, j'étais venue avec toi et on avait fait ça. Ouais. Enfin, pas toutes les nuits.
Ah non.
Juste de temps en temps.
Je veux pas que... les chevaux n'aiment pas être tout seuls. Dès qu'ils sont tout seuls, ils dépriment. Donc, et même avec les vaches, même ça se passe très très bien.
Et puis.
Je pense que je vais un peu de foin par-dessus.
C'est pas facile de récupérer entre guillemets quelqu'un qui est traumatisé. Quoi. Parce qu'il y a ça. Hein. Même de mettre en place des petites choses, ne serait-ce que des trucs quotidiens, quoi. C'était compliqué, oui. Quand il téléphonait à quelqu'un, n'importe, un copain du hand ou des gens que moi je connaissais pas ou quoi, il se cachait. Il allait dans un petit coin, je me revois, on allait chercher les vaches et puis d'un coup je le vois disparaître dans un buisson, je pensais qu'il y avait quelque chose ou quoi. Et en fait il était au téléphone et quand on ne comprend pas, on s'interroge pourquoi la personne se cache pour téléphoner. Donc, bah, évidemment, après, on interroge. Et puis, comme c'est un espèce de réflexe qu'il avait de se cacher pour faire ses choses perso, mais il n'y a aucune raison, puisque c'était, il n'a rien à cacher. Mais il le faisait quand même. Et bah, pour moi, qui ne connaissais pas exactement ce qui s'était passé, enfin, comment ça fonctionnait, une relation comme ça avec quelqu'un d'aussi méchant, en fait, je ne comprenais pas. Ça me paraissait complètement fou, quoi. Maintenant, bah, il reconstruit sa vie. Bon, j'en fais partie, je suis contente avec ça. Le bon côté de tout ça, c'est qu'il est jeune dans sa façon, dans sa relation aux autres. Même si il a l'âge qu'il a aujourd'hui, il dirait que c'est un ado, des fois. Donc c'est chouette.
Rentrer à la maison, j'étais jamais tranquille. Je rentrais le soir, que ce soit ici ou les autres maisons où on a été, hein, c'était pareil. Je rentrais le soir, j'avais quasiment toujours la boule au ventre, en fait. Là, quand je franchissais la porte, le temps que je vois comment était l'ambiance à la maison. Moi, un jour, je lui ai dit que je voulais partir, que je voulais arrêter cette histoire. Elle a su qu'il y avait quelqu'un de sa famille qui avait témoigné pour moi. Et quand elle a su ça, elle est rentrée dans une colère monumentale. Par son avocate, elle a su ça. Et là, elle est venue me voir et a commencé à me frapper sur le bras. Et c'est mon fils, le petit dernier, qui a vu... J'ai pas réagi encore cette fois-là. Je réagissais pas, hein, sur la violence. Hein. Et quand j'ai vu mon fils est venu me voir, il a soulevé mon t-shirt, il me dit « Waouh, ton bras est tout rouge. » Et là, je me suis dit « Non, je peux pas laisser filer ça. C'est trop. Ça va aller où, là ?» Donc, je suis sorti, j'étais encore quasiment en tenue de travail. Je suis parti voir le médecin. Et après, je suis allé voir les gendarmes après. C'est là que j'ai déposé plainte pour coup, il est sûr.
Je l'ai accueilli comme n'importe quel dépôt de plainte qui traite des violences intrafamiliales. C'est vrai qu'habituellement, c'est plutôt les femmes qu'on reçoit. Mais là, j'ai fait en sorte, pour moi, je me devais de le recevoir comme n'importe quelle victime, en fait.
Le gendarme qui était là, Il a pris ma déposition et il appuie sur le Bluetooth. Il me dit, c'est validé, je peux plus rien faire. Pas de regret? Non. Je dis, non, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et là, il m'explique, bah, t'as tout à fait raison, qu'il me dit. On sait que dans 95% des cas, à la première violence, ça stoppe tout. Il me dit, tu vois, là, t'aurais laissé filer, il me dit, je pense que physiquement, t'aurais le dessus sur ta femme. Bah, je vois, évidemment. Justement, qu'il me dit, justement. Bah, la première fois, t'aurais laissé filer, si t'avais rien dit, dans 15 jours, 3 semaines, je sais pas, qu'il me dit, t'aurais pris un deuxième coup. T'aurais pas encore réagi. Et une troisième fois. Et une quatrième fois. Ça aurait duré tant que ça aurait duré. Et un soir, parce que t'aurais eu une mauvaise journée, tu serais rentré fatigué, peut-être un peu irritable, et ce jour-là, t'aurais encore pris un coup. Et là, c'est toi qui aurais peut-être frappé. Elle serait venue à la gendarmerie, ça se retourne contre toi, et tout ce que t'aurais subi avant, y a pas de trace. Donc il me dit, t'as très bien fait d'avoir déposé plainte.
Je pars du principe que la personne qui vient, qui franchit les portes de la gendarmerie, déjà c'est une démarche qui est souvent difficile, donc me raconte la vérité. Après, à moi de faire l'enquête pour déterminer si effectivement, oui ou non, c'est la vérité. Parce que souvent, ce sont des personnes qui subissent des traumatismes, des fois depuis plusieurs années, et on se doit de les considérer comme victimes. Les hommes, je pense, ont du mal à faire cette démarche. On va considérer que l'homme doit être fort, donc forcément, il ne peut pas subir des coups de la part d'une femme. C'est ce qui est un peu ancré dans notre société. Peut-être le côté un peu macho par rapport à ça. De se confier la plupart du temps, en plus, peut-être par un homme en face de lui, c'est se sentir déjà dévalorisé, peut-être d'avoir honte. Donc forcément, il faut apporter un soutien à cette personne à la base. On pense plutôt au regard qu'auront les autres sur cette personne si ça se sait, plus que le nôtre qui reste neutre et professionnel par rapport à ça, et justement considérant la personne comme une victime.
Les gens ne comprennent pas qu'il puisse avoir été maltraité, voire battu par son ex-compagne. Les gens ne comprennent pas ça. Les hommes, c'est vrai, souvent rigolent en disant il n'a pas su... comment ? Le père de Pierre dit souvent ça. Il n'a pas su se faire respecter, ou il n'a pas su la mater. Enfin, je ne sais pas comment il dit exactement, mais ils ne comprennent pas. C'est vrai. Il y a un de ses frères avec qui on discute un peu plus facilement. Et lui, je pense qu'il comprend qu'il y a eu maltraitance, mais il se contente de dire qu'elle est folle barjot, quoi. Je ne ressens pas du tout ce côté « ouais, c'est un PD » où il ne sait pas se faire respecter. Plus, ça, c'est plus chez son père.
Et j'entends aussi, que ce soit dans ma vie civile, si on entend parler de ça, dire bah oui, s'il se fait battre par une femme, soit c'est une mauviette, un PD ou quoi que ce soit, c'est sûr, c'est les termes qu'on entend. Maintenant, des démarches comme la vôtre là, justement, le fait d'en parler, que ça se sache plus, peut-être que ça amènera justement d'autres hommes à se dire bah, moi aussi je peux en parler. Il y a une écoute et c'est pris en compte. C'est arrivé sur un autre dossier, par exemple, que j'ai pu traiter de ce genre, où c'était un homme qui était relativement frêle, avec sa femme qui était plus costaud que lui et qui prenait très régulièrement des coups parce que là, il ne pouvait pas lutter sur la force physique. Maintenant, on ne s'imite pas à dire si la personne vient et qu'elle n'a pas un coquard ou des traces, de dire ben non, vous n'avez rien, on ne traite pas. Si vous avez les violences psychologiques aussi qui sont prises en compte, il n'y a pas que les violences physiques. Donc les traces font partie des éléments de preuve que l'on demande de constater par un médecin et certificat médical, mais ce ne sont pas les uniques éléments qui sont pris en compte dans les procédures, en fait. Il y a tout l'élément aussi psychologique.
À la sortie de la première audience, le juge, il prend connaissance de mon dépôt de plainte et il se tourne vers moi et il me dit « Vous déposez plainte pour coups et blessures ?» Et vous restez à la maison. Il faut bien comprendre que c'était pas une question. Hein. C'était une attaque, c'était une affirmation à charge. Mon avocat qui se tourne vers moi une fois dans le couloir, il me dit le dépôt de plainte, c'était pas très heureux quand même. D'accord. Bien. Je prends note. Et je repars, donc je passe ici pour me changer, pour repartir travailler. et elle était dans la maison. Et là, elle me dit, t'as entendu ce qu'il a dit le juge? Dehors, t'as plus rien à faire ici. Et elle commençait à s'énerver, à se fâcher. Elle avait envie de me rentrer dedans. On s'est retrouvés, on était même pas 10 cm l'un de l'autre. Et là, je lui dis, bah vas-y, touche-moi et on va voir ce qui va se passer. Et elle a pensé au dépôt de plainte. Donc elle est partie. Et moi, je suis allé travailler. Et dans l'après-midi, j'ai le gendarme qui m'a téléphoné. Et je lui explique ce qui s'est passé dans la chambre à mon retour. Qu'elle avait envie, qu'elle a failli me rentrer dedans de nouveau. Il m'a dit, tu vois, ton dépôt de plainte. Et bien là, il te sert. Il dit, c'est ça qui l'a arrêté. Et j'étais convaincu de ça. Et il n'y aurait pas eu de dépôt de plainte, je pense qu'on se serait battu dans la chambre.
Il y a une fois où vraiment, ça a été terrible, elle a envoyé un message en disant que j'avais tué mon ex-compagnon, donc qui est décédé effectivement, mais il a eu un accident vasculaire, donc elle m'a accusée de l'avoir tué, et que mon père était complice de ça, donc je ne sais pas ce que mon père vient faire là-dedans, enfin bref, peu importe, et que j'allais faire pareil avec Pierrick, que j'allais tuer Pierrick. Donc, quand on a reçu ce texto-là, bien sûr, un peu effondré, choqué. J'en ai discuté avec la psy, que je voyais assez régulièrement à l'époque. Et elle m'a expliqué, elle m'a conseillé de porter plainte. Parce que ces gens-là ne s'arrêtent jamais tant qu'on ne met pas la loi en face d'eux, quoi. Donc, je suis allée porter plainte.
Depuis notre enfance, on nous inculque des images fausses, que effectivement l'homme, il est violent, c'est dur, c'est ça. Et puis que les femmes, c'est forcément la douceur, c'est l'instinct maternel. C'est forcément l'homme qui va frapper la femme. Ben non. Évidemment qu'il y a des hommes qui frappent des femmes. Évidemment qu'il faut s'occuper d'eux. Évidemment qu'il faut protéger les femmes. Mais l'inverse. La loi s'applique dans un sens ou elle s'applique dans les deux sens? Ça me révolte.
C'est quoi être un homme?
C'est une bonne question. Eh bien, je ne sais pas trop répondre, en fait. Eh bien, je dirais un homme, c'est quelque part, ça doit être juste. Juste et bon. Et protecteur, quelque part. Parce qu'on est physiquement plus fort. Et je crois que le rôle, quelque part, de l'homme, c'est mais dans le sens noble du terme. De protéger, ouais.
Et comme au début de notre relation, je comprenais pas, j'étais un peu... Donc Pierrick m'a dirigé vers la psychologue que lui, il avait vue. C'est ça, et ça a été vraiment important. Je pense que si j'avais pas pu être soutenue de ce côté-là, avec quelqu'un de professionnel, je pense pas que j'aurais pu continuer la relation avec tous les flous que j'avais. Ça m'a vraiment aidée. Pareil, pour lui, c'était pas forcément facile. Il devait avoir des peurs, j'imagine, de s'engager à nouveau, quoi. Je trouve que c'est déjà énorme. Moi, j'avais peur que c'était impossible pour quelqu'un qui a vécu ce qu'il a vécu de refaire une vie à deux. J'avais peur. J'ai cherché dans les bouquins qui traitent de ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des nouvelles histoires à la suite de ça? Puis j'ai trouvé aucun exemple. Ce à quoi j'attache le plus d'importance, c'est le courage. Et je trouve que c'est très courageux ce qu'il a fait de partir et de sauver sa peau. Très, très courageux, ouais.
C'est pas parce qu'on a été piqué par une belle rose qu'il faut se mettre à détester les fleurs. Eh ben, il y a plein de belles fleurs autour de moi, mais voilà, c'est bien.